La Grèce prolonge sa cure d'austérité. Les députés tablent sur une forte baisse des déficits publics afin de pouvoir rester dans la zone euro, de quoi susciter la colère des manifestants.
Euronews, 18 novembre 2011.
Difficile dans ce contexte de demander de nouveaux sacrifices à la population. Le gouvernement prévoit pourtant d'augmenter les impôts et de réduire les salaires dans le public. Des mesures exigées par les créanciers de la Grèce.
Notre expérience comme CADTM de ce qui s'est passé dans le tiers-monde pendant 30 ans est très importante. Si tu regardes les différentes recettes du plan d'austérité imposé à la Grèce, c'est un décalque parfait des plans d'ajustement structurel imposés aux pays du tiers-monde depuis 30 ans, dont ils se sont débarrassés maintenant depuis 7 ou 8 ans. La plupart d'entre eux n'ont plus ces plans d'ajustement structurel. Mais c'est l'Europe qui a versé maintenant dans cette politique d'ajustement structurel conduite par une institution que les peuples du Sud connaissent parfaitement et qui s'appelle le Fonds monétaire international, qui avait disparu du terrain européen la dernière fois que le Fonds monétaire international était intervenu en Europe, c'était en 1986 à l'égard du Portugal, et ça laissait un très très mauvais souvenir aux Portugais. Et après ça, le FMI n'est plus intervenu que dans les pays du Sud ou dans les pays de l'ex-bloc soviétique, une fois que le bloc soviétique a implosé. Okay ? Et donc le FMI, dont plus personne ne voulait, les gouvernements du Sud ne voulaient plus du FMI, ils le remboursaient anticipativement en disant « on ne veut plus vous voir », ils ne savaient plus où trouver des clients, et voilà que se présente de
ça
manière...
Ça tombe très bien,
la crise. En fait, le FMI va très bien quand il y a une très grosse crise, parce qu'il vient alors avec de l'argent, face à des pays qui n'ont plus accès aux marchés financiers, aux banques, qui leur prêtaient jusque-là massivement, et il dit, voilà, je viens vous rendre service, mais vous allez appliquer ma politique. Cette politique a été parfaitement néfaste dans les pays du Sud, et ils vont mieux depuis qu'ils l'ont abandonnée, et maintenant, on l'applique en Europe, et ça va avoir les mêmes effets. Alors, en résumé, je pense qu'il faut avoir des critères politiques concernant la dette publique. L'essentiel de la dette publique est illégitime parce qu'elle a été accumulée dans le cadre d'une politique qui a favorisé, comme je l'ai dit tout à l'heure, une seule classe sociale qui est une infime minorité de la population au détriment du reste de la population, premièrement. Deuxièmement, elle est illégitime parce qu'elle a été augmentée par le sauvetage des banques et, comme tu l'as dit, les États qui ont sauvé les banques n'ont posé aucune condition et n'ont pas repris le contrôle des institutions bancaires. Dexia, l'État français l'a sauvé avec l'État belge en octobre 2008. On a laissé Dexia, avec un Français à la tête, Pierre Mariani, dilapider les fonds qu'on avait injectés en son sein en 2008. Et Dexia est retombé en faillite début 2011 et on l'a sauvé une deuxième fois. Qu'est-ce qu'il y a de plus illégitime que cette politique qui consiste à aider des banquiers sans leur fixer des conditions et à chaque coup devoir utiliser des fonds publics pour les sauver?
Qui va payer pour Dexia? Est-ce que le contribuable sera sollicité? Et faut-il craindre des conséquences sur les autres banques?
France 2, 4 octobre 2011.
Alors l'élément rassurant, David, c'est que la chute de Dexia ne marque pas forcément le début d'un effet domino où d'autres banques viendraient à sombrer demain matin. Pourquoi? Parce que Dexia, c'est une banque particulière. Par le passé, ses dirigeants ont pris beaucoup de risques et bien qu'elle ait été sauvée de la faillite de justesse il y a 3 ans par la France et par la Belgique, eh bien on savait qu'elle était toujours un maillon faible. Alors maintenant, qui va payer? Eh bien peut-être personne, si l'organisme de défaisance, la banque poubelle, fait bien son travail. Pour Dexia, dans le pire des cas, la France et la Belgique pourraient perdre entre 10 et 15 milliards d'euros, c'est beaucoup, et cela remettrait au goût du jour le vieil adage, on privatise les bénéfices et on nationalise les pertes.
Troisième raison de l'illégitimité, les recettes fiscales ont baissé à cause d'une crise provoquée par les banques et la déréglementation financière, et donc on a aussi dû augmenter l'endettement public. Et quatrièmement, un autre facteur d'illégitimité, c'est que dans le cadre européen, en particulier de la zone euro, les États ne peuvent pas emprunter à la Banque nationale de France, alors à la Banque nationale de Belgique, à la Banque de Grèce ou à la Banque centrale européenne. Dans le cadre de la construction européenne, et en particulier de l'eurozone,